France Inter. .fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre, bonjour. Et bonjour à tous. Vous n'aurez pas ma haine. C'est avec ces mots que le journaliste Antoine Léris s'est adressé aux terroristes 3 jours après les attentats du 13 novembre à Paris. Sa femme Hélène a été tuée au Bataclan, ce qui bien sûr a plongé Antoine dans un infini désespoir, mais pour faire comprendre à ses assassins qu'il n'aurait pas le dernier mot et que l'amour était toujours bien plus fort que la mort, il a donc écrit ce message « Vous n'aurez pas ma haine ». Une trentaine de lignes douces et déchirantes dans lesquelles il disait à la fois la beauté d'Hélène, la beauté de leur histoire, sa grande simplicité et son choix de continuer à faire grandir Melville, son petit garçon d'un an, dans un esprit dénué de tout ressentiment. Un vibrant plaidoyer pour la tolérance, partagé par plus de 200 000 personnes sur le réseau Facebook, puis repris à la une du Monde et du quotidien allemand Der Spiegel. « Vous n'aurez pas ma haine ». Cette phrase est aujourd'hui devenue le titre d'un livre, un bref récit qu'Antoine Léris vient de publier chez Fayard, le récit des 12 jours qui ont suivi le drame et dans lequel, selon le journal du dimanche, il y est moins question de terrorisme que d'amour. L'amour, bien plus fort que la mort, le rêve d'Antoine de retrouver un jour Hélène au paradis des âmes libres, écrit-il. Dans chaque pièce de leur appartement parisien, il a posé des photos d'elle et à Melville, il a tout dit, tout expliqué, avec des mots simples, confie-t-il. Il lui a dit « Notre famille, désormais, c'est nous deux. » Un père avec son fils, et s'occuper de lui permet de rythmer le quotidien, le lever, le repas, le coucher, et puis à l'heure du bain, chanter la jolie mélodie qu'Hélène aimait lui fredonner.
Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau?
Plus d'amour que de terrorisme dans les mots d'Antoine Léris. Mais dans la presse, évidemment, c'est le terrorisme qui domine. Dans Le Parisien, vous lirez le portrait de Reda Cricket, interpellé la semaine dernière en banlieue parisienne, un homme qui s'était forgé une solide expérience criminelle avant de devenir l'un des visages de Daesh. Le quotidien raconte comment il est passé de l'ultra-violence au djihadisme. Lire aussi, dans le JDD, le reportage de Karen Lajon qui a voulu comprendre comment les islamistes recrutent en Égypte et pour ce faire, la journaliste a tenté de se convertir auprès du cheikh d'une mosquée radicale. Et puis, dans les colonnes de Vanity Fair, passionnante enquête de Sophie des Déserts sur ce qu'on appelle aujourd'hui la drogue des terroristes.
Mais ou bien la pilule qui rend fou.
Après quasiment toutes les tueries et les attentats perpétrés ces derniers mois, c'est elle que de nombreux spécialistes ont pointé du doigt. Une substance qui désinhiberait la folie sanguinaire de ceux qui agissent pour le compte du groupe État islamique. Cette substance, c'est le captagon. Le tireur de la plage de Sousse en Tunisie avait pris du captagon. Les tireurs du musée du Bardo également. Le captagon, un très ancien médicament, prescrit d'abord contre l'hyperactivité et qu'aujourd'hui les djihadistes consommeraient non seulement pour tuer, mais aussi pour lutter contre la peur et la fatigue durant les combats. Mais alors qui fabrique cette drogue? Et de quelle manière s'est-elle retrouvée sur le front syrien? C'est précisément ce que nous explique l'enquête de Sophie des Déserts, où l'on apprend que le captagon répand sa poudre blanche dans tout le Proche-Orient, et en premier lieu dans la jeunesse fortunée des pays du Golfe, où il serait utilisé afin de lutter contre le spleen, un marché colossal, un trafic colossal. C'est ainsi qu'à Beyrouth, un prince saoudien a été arrêté avec dans ses bagages 2 tonnes de pilules. Valeur estimée 10 millions de dollars. Pour autant, les dites pilules ne sont pas chères à fabriquer. Il suffit d'une simple machine à bonbons. Quant aux produits chimiques de base, ils s'importent pour 3 fois rien d'Asie le plus souvent. Puis la préparation se fait dans des laboratoires mobiles, cachés dans des caves, des maisons, des écoles. Le captagon finance la guerre, rapportant des centaines de millions de dollars à la fois aux rebelles et aux partisans de Bachar al-Assad, destin guerrier pour une substance qui dans le passé a su séduire de tout autre public. Et ma consoeur de rappeler que dans les années 80, l'homme d'affaires Bernard Tapie distribuait du captagon aux footballeurs de l'OM. Pour donner l'exemple, il en avalait lui aussi. Et certains disent que c'est grâce au captagon que le 15 de France a réussi à battre les All Blacks en 1986. À l'époque, les petites pilules avaient la réputation d'être le meilleur des remontants, excellentes pour l'énergie, la force, la concentration, y compris pour les écrivains. Philippe Solers confie ainsi qu'il a lui-même longtemps écrit sous captagon, que Jean-Paul Sartre était accro, tout comme Bernard-Henri Lévy. ou bien encore Yves Mourouzi, le présentateur de TF1, qui ne dormait que 2 heures par jour. Et maintenant, on sait grâce à quoi.
Et puis toujours dans Vanity Fair, un autre article intéressant consacré celui-là aux héros récurrents du cinéma français.
Aux États-Unis, ils ont Batman, Iron Man, Superman, et nous avons Jacouille la Fripouille, Patrick Chirac et Brice Denis. Jacouille la Fripouille, incarné par Christian Clavier, super-héros des Visiteurs, dont le 3e volet sort mercredi prochain. Patrick Chirac, incarné par Franck Dubosc, super-héros de Camping, dont le 3e volet sortira cet été, précédent de quelques semaines la sortie de Brice 3, parce que j'ai cassé le 2, avec toujours Jean Dujardin dans le rôle du surfeur niçois, le 1, le 2, le 3 en France. Dès lors qu'un film fonctionne, on n'hésite pas à faire la suite. On pense également au Bronzé, La vérité si je mens, ou bien encore au Cœur des hommes. Mais alors, pourquoi est-ce que ça marche? Eh bien, précisément, parce que c'est typiquement français, nous explique Adrien Gombeau, qui signe cet article. Exception faite des Visiteurs, il s'agit avant tout d'histoire d'amitié, le thème de la bande de potes, avec une certaine obsession pour le soleil et les vacances, les plages de Normandie, les jardins en Provence. Quand les franchises américaines emmènent les spectateurs dans des univers futuristes, les Françaises donnent à voir un pays convivial, nostalgique, hors du temps. Une vision qui d'ailleurs touche rarement un public autre qu'hexagonal. Dans l'histoire des sagas tricolores, seule la série des film érotique Emmanuel semble avoir triomphé au-delà de l'Europe. Qu'importe, en France, ça cartonne, malgré la condescendance, voire le mépris des critiques. Du reste, parmi les fans, on compte aussi des gens qui passent pourtant pour très sérieux. Camping serait ainsi l'une des comédies populaires préférées d'Alain Cavalier, le réalisateur de l'ascétique Pater et de l'austère Thérèse. Quant à Michel Houellebecq, qui lui non plus ne fait pas figure de guéluron, il est capable de jouer des dialogues entiers des gendarmes de Saint-Tropez en faisant toutes les voix. Louis de Funès, Michel Galabru, c'est notamment ce qu'il s'était amusé à faire lors du repas de mariage de Frédéric Becbédé, nous raconte le journaliste de Vanity Fair. Et selon les témoins de la scène, c'était vraiment le meilleur moment de la soirée. Conclusion avec Michel Houellebecq. Ça farte, Patricia.
Et pour les Visiteurs 3, alors c'est un bon moment ou pas?
Est-ce que ça farte ou pas? Eh bien, la spécialiste cinéma du JDD confie ce matin sa déception. Pas devant le film, mais parce qu'elle n'a pas eu le droit de voir le film en avant-première. Pratique aussi détestable que répandue, explique-t-elle. Les distributeurs ne veulent plus montrer leur grosse comédie qu'à certains journalistes. Du coup, elle a interrogé ses confrères qui ont eu la primeur de le voir. Des avis contrastés. Il y a de l'action, mais tu te marres pas. Ça met trop de temps à démarrer. La première heure pâtit. Mais la suite se tient. Je m'attendais à une bouse, mais ce n'est pas le cas. Le film sort mercredi prochain et ça s'appelle Les Visiteurs, sous-titre La Révolution. Parfum de révolution aussi sur la place de la République. Une place sur laquelle continuent de se réunir les opposants à la réforme du Code du Travail. Pour la 3e nuit consécutive, des centaines de manifestants, en grande majorité des jeunes. Cette question à la une de Politis cette semaine, est-ce que cette mobilisation peut avoir une durée indéterminée? Tentative de réponse du politologue Édic Fougier dans Le Parisien. Édic Fougier explique que la période préélectorale est toujours propice au mouvement et que la loi El Khomri pourrait être la goutte d'eau de trop, symbole d'une précarisation croissante de la jeunesse, laquelle a le sentiment de vivre une fin de règne. Dès lors, interroge le journal, que doit faire le gouvernement? Réponse du politologue, soit il maintient la loi et alors la colère risque de se transformer en traînée de poudre, soit il la retire et dans ce cas-là, c'est la certitude pour François Hollande de ne pas être réélu. En somme, il n'y aurait pas de deuxième épisode, pas de Hollande 2, et pourtant, c'est ce à quoi appelle aujourd'hui très clairement Manuel Valls dans le journal du dimanche, selon le Premier ministre. Il n'y a pas d'alternative à François Hollande à gauche, et la logique pour lui, c'est qu'il soit candidat puisqu'il est président. Président est la voix de l'intérêt général, estime même le chef du gouvernement, en précisant qu'il doit agir, emmener le pays et lui proposer un chemin. Mais la capacité de François Hollande à incarner ce chemin est intacte et je serai à ses côtés, conclut-il. C'est Manuel Valls qu'il parle dans le journal du dimanche. Bref, entre Valls et Hollande, et n'en déplaise aux mauvaises langues, aucune haine que de l'amour.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.